Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les principaux titres de ce jour. En Ituri, des centaines de maisons réduites en cendres suite au bombardement par l'armée ougandaise. Depuis une semaine, cette force pilonne plusieurs entités du groupement DAR, accusant les zones d'héberger des miliciens de la CODECO. Les notables de la région condamnent fermement ces actions. Insécurité croissante dans les quartiers Malebo à Bandundouville. Multiplication de vols et actes de vandalisme dans ces quartiers plongés dans l'obscurité. Un conseiller communal de Mayoyo appelle la société d'électricité à rétablir l'énergie pour mettre fin à cette situation. Entretien exclusif avec le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise pour le Nord Kivu. Dieudonné Makambo aborde les enjeux sécuritaires dans les zones sous contrôle du gouvernement, notamment dans un contexte où la grande partie de la province est occupée par le M23. Il met également en lumière ses plans pour renforcer la coopération entre la police et les habitants de Beni afin de mieux sécuriser la région. Ne manquez pas ce rendez-vous. En Ituri, une centaine de maisons ont été incendiées jeudi au bombardement de plusieurs entités du groupement DAR, territoire de Djougou, par l'armée ougandaise UPDF. Selon des sources sécuritaires locales, cette force étrangère pilonne ces zones depuis une semaine, accusant les entités d'héberger des miliciens de la CODECO. Les notables condamnent les dérapages des opérations qui ont touché des populations civiles et leur position, les mauvaises coordinations des opérations conjointe contre tous les groupes armés à Djougou. Nous faisons le point avec Ezekiel Mouzaïlia depuis Bounia.
Au total, trois villages du groupement DAR dans le territoire de Djougou sont quasi déserts depuis environ une semaine. D'après des sources locales, il s'agit entre autres des villages de Mbuchama, Mbuchu et de Kana, des entités d'où provenaient des miliciens de la CODECO qui ont affronté les troupes de l'armée ougandaise UPDF en mars dernier dans la région des Fataki. Après une descente dans la zone jeudi, les autorités coutumières locales disent avoir constaté des dégâts énormes du côté de la population civile. Elles parlent d'au moins 64 maisons touchées à Mbuchama et Mbuchu et 62 autres dans les villages de Kana. Les coordonnateurs de la société civile locale indiquent qu'au moins 9 villages sont presque vidés de leurs habitants. Certains ont fui dans la brousse, d'autres ont trouvé refuge dans des endroits jugés sécurisés. Renchérit Germain Mapassa, président de la société civile. Cette structure déplore la mauvaise coordination des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les groupes armés, même si elle dit soutenir cette mutualisation des moyens. Cependant, elle recommande aux deux armées de tenir compte du droit international humanitaire pendant ces opérations de traque des groupes armés. Bounia, Ezekiel Mouzaïlia, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, la présence des jeunes réservistes de l'armée nationale congolaise dans la commune urbano-rurale de Lubunga et certains quartiers de la rive droite de Kisangani suscite une vive inquiétude parmi les habitants. Ces jeunes circulent librement armés des couteaux et des fusils de calibre 12. La population demande qu'ils soient regroupés dans un endroit sécurisé pour éviter tout incident. Le point avec Jacques Mouk. Congolais.
À moitié vêtus, ces jeunes circulent dans les rues de la commune Lubunga, traversent parfois le fleuve Congo, munis de machettes, de poignards ainsi que de calibre 12. La population n'en revient pas au vide de ce spectacle aussi bien effrayant qu'odieux. Elle exige leur encadrement.
Il faudrait que les pouvoirs publics puissent prendre les dispositions nécessaires afin de barrer la route à cette circulation des armes blanches parce que ça commence également à déranger la population.
Leurs mouvements incessants inquiètent la population. En outre, ils commencent à faire la loi, comme l'explique l'autorité municipale.
Ils commencent à arrêter même les gens et ils interviennent dans les petits conflits déjà. Alors tout ça, ça commence à inquiéter la population.
Ces jeunes patriotes ont répondu à l'appel du chef de l'État et du gouverneur de province par rapport à l'éveil patriotique en vue de lutter contre la rébellion, précise Roger Ekongo, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Il exhorte la population au calme.
Nous sommes en train de chercher à encadrer sérieusement ces gens-là et aussi l'encadrement n'est pas le cantonnement, mais aussi il y a un problème de prise en charge et on est en train de régler tous ces petits soucis-là. Très prochainement, la situation sera
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Toujours à Kisangani, 6 personnes ont perdu la vie parmi les 13 frappées par la foudre dans la commune de Mangobo. L'incident s'est produit hier soir au marché municipal des Balessé sous une pluie diluvienne. Le bourgmestre de Mangobo, Constant Balomba Saïlé, explique les circonstances de ces drames et les dispositions prises pour les funérailles des victimes. Il est au micro de Jacques Mukonkole.
Pour le moment, le bilan est de 6 morts et 7 rescapés. Notre marché là s'appelle Balès, le marché Balès. Comme d'habitude, les vendeurs vendaient leurs histoires et puis lorsque la pluie a commencé à menacer, c'est par là qu'on a vu un coup de foudre et ça a foudroyé 13 personnes. On avait enregistré 13 cas. Ce n'est pas le premier cas. En 1999, il y avait aussi un cas pareil qui avait fait 12 morts, toujours au marché Balès. Avec les autorités, nous allons voir comment il faut prendre en charge ceux qui sont hospitalisés et aussi voir comment nous allons accompagner les familles de ceux qui sont morts. Alors, nous allons également étudier, je ne sais pas s'il y a des spécialistes pour essayer un peu d'étudier pourquoi ça a repris dans les mêmes marchés deux fois. Alors, si les spécialistes vont nous dire que c'est un millier qui ce phénomène va commencer à réapparaître là, maintenant, nous allons chercher à mettre un antifoudre.
Comme indiqué précédemment, des cas de vol et de vandalisme s'est multiplié dans le quartier Malebo, situé dans la commune de Mayoyo à Bandundu-Ville. Ces quartiers plongés dans l'obscurité depuis plus d'un mois en raison d'une panne de transformateur. Jérémy Makofi, conseiller communal élu de Mayoyo, alerte sur l'insécurité croissante et appelle la Société nationale d'électricité SNEL Grand Bandundu à prendre ses responsabilités pour résoudre ce problème en rétablissant l'électricité de toute urgence. Écoute le conseiller communal Jérémy Makofi au micro d'Irene Bomaluzolo.
Depuis plus d'un mois et demi, notre communauté vit dans l'obscurité totale. Il est vrai que les transformateurs de la cabine Malebo Nord ont rencontré des problèmes techniques, bien que la SNEL aille récupérer ces transformateurs pour procéder à sa réparation. Nous sommes contraints de constater qu'aucune suite favorable n'a été donnée à ces dossiers, laissant les habitants de Malebo dans une situation précaire. En effet, des cas de vol de biens durant la nuit se multiplient, entraînant une spirale d'insécurité. Les cambrioleurs profitent de cette situation pour s'attaquer aux maisons et des actes de vandalisme tels que les vols de câbles se produisent fréquemment. La peur et l'insécurité s'installent au sein de notre commune. Chaque nuit, c'est une lutte pour la survie et nous ne devrions pas devoir vivre ainsi. Il est temps que la SNEL prenne ses responsabilités et agisse avec diligence. La sécurité et le bien-être de la population doivent être les priorités. Nous exigeons que la SNEL mette en place une solution rapide et durable pour rétablir l'électricité dans notre quartier Malebo.
La SNEL assure que l'électricité sera rétablie à Malebo dans quelques jours car les équipes travaillent d'arrache pied. L'ingénieur Prosper Bakuku Wanza, directeur provincial de la SNEL Grand Bandundu, l'a annoncé après une audience avec le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Serge Masekandombe. Lors de cette rencontre, les discussions ont principalement porté sur la problématique de l'électricité dans le quartier Malebo. À Beni, dans le Nord Kivu, les agents pénitentiaires de la prison centrale ont été sensibilisés vendredi à la masculinité positive en milieu carcéral. Cette initiative organisée par l'association Dollaro, en collaboration avec la police de la MONUSCO UNPOL, vise à intégrer l'aspect genre dans le travail quotidien des agents pénitentiaires. Ange Maliro, chargé de la communication des Dollaro, explique au micro de Marc Maroufimbo.
Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner l'UNPOL pour la sensibilisation qu'ils ont. Et nous sommes intervenus sur la masculinité positive. La masculinité positive, c'est rappeler aux hommes leurs responsabilités, mais aussi leur façon de s'occuper des femmes. Nous savons que ce sont les hommes. Nous voulons qu'ils intériorisent cette masculinité positive. S'ils arrivent à l'intérioriser, ça sera pour eux une bonne chose, mais aussi ça va changer la façon de vivre. Parce que ça intervient quand on est responsable à la maison. On peut bien comprendre la femme, soit son épouse, ou les enfants, ou la femme dans la communauté, parce qu'ils sont là, mais nous avons vu aussi les personnels féminins là-bas. Donc, cette masculinité doit être positive à la maison, mais aussi au lieu de travail.
Le cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO prépare déjà le terrain pour des opérations électorales apaisées. Hier vendredi à Kinshasa, il a organisé un atelier de plaidoyer sur la médiation électorale. Le point avec Blaise Ondongala Mayanda.
Cet atelier constitue donc une occasion de présenter la problématique de la médiation et de préparer la voie du plaidoyer pour les réformes électorales à venir. Les participants venus des associations spécialisées sur la question électorale ont échangé avec les experts de la CENI sur les mécanismes d'intégration des médiatrices et médiateurs comme partie prenante au processus électoral. Pour la directrice exécutive du CAFCO, il est nécessaire que les médiateurs des conflits électoraux bénéficient d'une protection légale et soit prise en charge aussi que les autres acteurs.
L'enjeu ici, c'est que nous puissions aujourd'hui ensemble parler de l'importance de cette opération de la médiation électorale avec l'organe de gestion d'élection pour que, de façon synergique, on puisse mener un plaidoyer fort qui amène le législateur à intégrer dans la loi électorale la question de la médiation électorale.
Pour sa part, Maître Fabien Boko Matondo, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, a salué cette démarche du CAFCO qui s'inscrit dans le cadre des élections libres, transparentes et apaisées. Pour rappel, CAFCO avait déployé environ 377 médiateurs et médiatrices lors des élections générales de 2023.
L'intelligence artificielle et les compétences informatiques étaient au centre d'une émission de Radio Okapi organisée mardi dernier à l'Université protestante au Congo. L'événement a été honoré par la présence du doyen de la Faculté des sciences informatiques, le docteur David Koutangila, ainsi que des experts certifiés en informatique. Ils ont discuté de l'impact croissant de cette technologie dans le domaine universitaire, mettant en lumière les opportunités, les défis, les promesses et les limites de l'intelligence artificielle. Benjamin Moudoumbi pour les détails.
Cette science avait pour objectif de sensibiliser les étudiants diplômés en informatique à l'importance de développer des compétences pratiques certifiables en complément de leur formation universitaire. Ainsi l'a souligné Zéphérin Tchaba, ingénieur en informatique responsable du centre de formation ACERT Learning and Solution. Ainsi lors de son intervention, le doyen de la faculté d'informatique Koutangila Mayoya David a souligné l'importance de l'intelligence artificielle dans la formation universitaire.
L'intelligence artificielle aujourd'hui pour les recherches, je trouve que ce n'est pas mauvais que les étudiants puissent recourir à l'intelligence artificielle. Le monde nous amène vers là.
Pour les participants, pour la plupart des étudiants, l'enthousiasme était palpable. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur satisfaction. C'est le cas de cet étudiant inscrit en informatique.
En tant qu'étudiant passionné aussi de l'informatique, nous avons eu à accumuler beaucoup dans cette conférence d'aujourd'hui, surtout sur le défi de l'intelligence artificielle et aussi certaines solutions que les uns et les autres intervenants ont eu à soulever. Et moi, en tant qu'informaticien dans mon domaine, je sais maintenant comment est-ce que je dois vraiment vivre dans ces domaines et aussi avec ces technologies informatiques de l'intelligence artificielle.
Nombreux sont rentrés avec envie de voir se perpétuer pareille mission pour soutenir leur formation universitaire.
Dans la province du Maniema, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICSN, a remis à l'autorité provinciale plusieurs axes routiers réhabilités dans la zone tampon du parc national de la Lomami. Cela inclut 56 km sur l'axe Ndingi-Bafundo, 6 km sur l'axe Ndingi-Tchombe-Kilima et 6 km sur l'axe Ndingi-Lukamdo. Avant la remise officielle, un contrôle technique d'évaluation a été effectué. La cérémonie qui s'est tenue hier vendredi a été salué par la population locale. Le coût total de ces travaux est estimé à plus $1 million, selon le directeur provincial de l'ICSN. Reportage Florence Kizalunga.
Quitter des sentiers à des routes réhabilitées, la population de cette contrée remercie ICSN et ses partenaires pour le travail abattu. David Bituka est président de la société civile.
Nous, la population de Lokando, nous disons un grand merci. Nous avions des sentiers, vraiment il n'y avait pas de circulation. Mais pour le moment, nous avons des routes. Il y a maintenant la circulation des autos. Nous demandons toujours aux autorités de nous réhabiliter encore le tronçon de Dingi Kindu. C'est ça notre souci vraiment.
Mais que quelle est la véritable importance de posséder de telles routes? Radar Nishuni, directeur provincial de ICSN, répond.
Les mamans cultivent le paddy ici. Nous venons de donner des décortiqueuses, c'est-à-dire ils vont commencer à décortiquer le riz. Et s'ils font une surproduction, avec la route, ils peuvent quitter leur petit village Bafundo ou Chombekilima et ramener au beach à Lokando sans problème. Même les véhicules peuvent quitter, aller les trouver maintenant chez eux à la maison et acheter facilement.
Toutefois, l'entretien s'impose et c'est la recommandation du gouverneur Moussa Kabankoubi.
À la population, donc la communauté bénéficiaire de ces projets, c'est que cette route ou ces 68 km soient durables. Il faut donc de l'entretien et de la maintenance.
Signalons qu'un comité local d'entretien routier est mis en place pour cette fin. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Ayant purgé déjà 7 ans de prison, l'ex-djihadiste malien Abdulaziz Al-Hassan a demandé à la Cour pénale internationale une libération anticipée. L'ancien du groupe terroriste Ansar Dine avait été condamné en novembre dernier par la CPI à une peine de 10 ans de prison pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre lors de l'occupation de Tombouctou par son groupe et Al-Qaïda au Maghreb islamique d'avril 2012 à janvier 2013, mais le Mali s'oppose fermement à sa libération anticipée. Depuis son arrestation en 2018, le djihadiste a déjà purgé 7 ans de prison et devrait y passer 3 autres, car sa peine de 10 ans de prison avait été définitivement confirmée en mars par la CPI, une peine qualifiée de modique par Bamako, d'autant que le code pénal malien prévoit la peine de mort pour les crimes dont Abdelaziz Al-Hassan a été reconnu coupable.
L'invité.
Notre invité est le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo Ngimba, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise pour le Nord Kivu. Il nous parle de la situation sécuritaire dans les zones sous contrôle du gouvernement et de ses plans pour sécuriser la population, alors qu'une grande partie de la province du Nord Kivu est occupée par le M23 soutenu par le Rwanda. Le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo s'entretient avec André Kitenge.
Commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo Ngimba, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de prendre vos nouvelles fonctions comme chef de la police nationale congolaise au Nord Kivu. Quel est votre sentiment alors que plusieurs entités de la province sont occupées par le M23 soutenu par le Rwanda?
Je sais que c'est une lourde responsabilité, à la fois un sentiment de fierté. Pourquoi? Parce que la majorité de nos éléments du nord de la province du Nord Kivu sont ici au sud, à Beni. Ils n'ont pas voulu travailler avec l'ennemi. Voilà pourquoi je dis que c'est un sentiment de fierté pour moi.
Général Makambo Ngimba, la police est chargée de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui dans la partie sous contrôle du gouvernement dans le Nord Kivu?
Il est vrai que actuellement dans le Nord Kivu, la partie contrôlée par le gouvernement, la situation est relativement calme. C'est pourquoi j'ai dit que nous continuons encore à travailler pour que la population puisse vaquer calmement.
Y a-t-il une menace quelconque?
Menace, c'est normal, parce que l'ennemi de la paix n'a pas encore croisé ses bras et nous y travaillons.
Le Nord Kivu fait face à plusieurs défis, notamment sécuritaires, avec la criminalité urbaine dans la ville de Beni et ailleurs dans les entités non occupées par la rébellion. Comment comptez-vous rétablir la sécurité dans ces milieux?
Nous allons renforcer les dispositifs qui sont déjà en place et nous y travaillons. Nous accélérons, nous allons travailler ensemble avec la population, c'est-à-dire les cadres de base, les mouvements citoyens, pour qu'ensemble nous puissions travailler en synergie pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la paix.
Vous avez également vos partenaires, notamment la MONUSCO. Comment comptez-vous travailler avec la MONUSCO, avec la police de la MONUSCO, UNPOL?
Quand j'ai dit que nous travaillons en partenariat, c'est même avec la MONUSCO. Nous travaillons ensemble avec la MONUSCO, la population et les autorités locales. Nous conjuguons tous les efforts pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix.
Général Makambo Ngimba, bientôt 3 mois que les villes de Bukavu et de Goma sont occupées par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Quel est le sort des policiers congolais qui vivent aujourd'hui dans les entités contrôlées par ces rebelles? Font-ils toujours partie de la police nationale congolaise?
je fais appel au patriotisme. Tantôt là, j'ai félicité tous nos policiers qui n'ont pas voulu travailler avec l'ennemi. Je sais que la police nationale congolaise, en tant que de patriotes, tous travaillent pour la paix, pour la République démocratique du Congo.
Alors, comment répondez-vous à ceux-là qui disent que la plupart ou certains éléments de la police nationale congolaise tracassent la population?
Cette allégation n'a plus raison d'être. La police nationale congolaise, aujourd'hui, les gouvernements se battent à doubler leur salaire. Il n'y a plus de raison de parler de cet aspect des tracasseries. Et nous, nous allons nous investir pour ça. Je pense que depuis que je suis là, en tout cas ces allégations n'ont plus de raison d'être.
Quel est votre message à la population du Nord Kivu?
La population du Nord Kivu doit travailler ensemble avec les forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit, et c'est ce que j'ai toujours dit, que la police, les institutions des Nations Unies qui sont avec nous ici, les autorités, les cadres de base, tous sont des partenaires. La sécurité n'est pas qu'un problème des forces de défense et de sécurité. La sécurité en République démocratique du Congo, c'est un problème de tout le monde, de tout Congolais. Et nous travaillons en partenariat avec la population pour que la paix revienne en République démocratique du Congo.
Commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo Gimba, merci.
Merci.
Vous venez d'écouter l'entretien entre le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo et André Kitenge, notre permanent à Béni. Et voilà, ce journal sur Radio Okapi touche à sa fin. Ce programme a été mis en onde par Pierre Diassinois, coordination de Rosalie Zawadi et supervision de Jacques Molima. À la présentation Gisèle Cage, restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Nous vous souhaitons une excellente journée, espérons vous retrouver très bientôt sur la même fréquence. Merci et à très bientôt.